Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Sélection du Reader's Digest et la conversation. Au programme, comment apaiser l'anxiété, 6 façons de se préparer à la prochaine récession et 6 bonnes raisons de pratiquer la méditation. Bonne écoute!
Comment apaiser l'anxiété? Un texte de Rebecca Phelps avec la collaboration de Lucy Uppritchard et de Jeanne Moncada, paru le 25 août 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest. Nous sommes tous sujets à des crises d'inquiétude. Comment savoir si le problème est grave et s'il faut se faire aider? Voici comment apaiser l'anxiété. Il y a 8 ans, victime de pensées obsédantes, d'apathie et d'insomnie, Sue Thomas a compris qu'elle ne s'en sortirait pas sans aide. À 66 ans, elle était fonctionnaire au NHS, le service de la santé publique britannique, dans le sud de l'Angleterre. Pour remédier à ce qu'elle prenait pour une dépression, elle a fait appel à différentes techniques comme les thérapies comportementales et cognitives, TCC. C'est ainsi qu'on lui a diagnostiqué un trouble anxieux. En mettant un nom sur le tourbillon d'émotions qui l'assaillait, elle s'est rendue compte qu'elle tentait l'impossible pour dissimuler ses symptômes, surtout au travail. Hantée par la peur de ne pas être à la hauteur, « je m'arrangeais pour faire bonne figure », explique-t-elle. Pour ça, oui, je mériterais un prix. Son expérience et ses compétences n'empêchaient pas Sue de douter de la qualité de son travail. Le soir, son esprit s'emballait, elle ne pouvait se reposer. Le jour, des pensées négatives la hantaient, accompagnées de nombreux symptômes comme les nausées et les acouphènes. Je découvrais la nature très physique de l'anxiété, reconnaît-elle. Ce sont souvent ces manifestations corporelles des émotions qui convainquent les patients qu'ils ont besoin d'aide. Sue est l'une des quelques 300 millions de personnes dans le monde victimes de troubles anxieux. L'anxiété touche chacun de nous à des degrés variables. Elle est le plus souvent intermittente et surgit après un événement stressant ou traumatique. Elle peut aussi survenir dans des situations quotidiennes et sans risque. Cette forme d'anxiété est pathologique. L'anxiété chronique mine l'organisme. L'anxiété fait partie de notre système de réaction au stress. Il s'agit d'une réponse émotionnelle à une menace anticipée. Autrement dit, nous craignons qu'il nous arrive quelque chose. Parfois, des éléments tangibles nous le font croire. Parfois, il n'y en a pas. Lorsqu'une crise se manifeste, elle s'accompagne souvent de nombreux signes physiques, note le docteur Olivier Dubois, psychiatre directeur du Centre thermal et des cliniques de Saujon et de l'École thermale du stress. Le système nerveux sympathique, responsable des fonctions involontaires comme la respiration et les battements du cœur, se met en état d'alerte maximale. Les glandes surrénales libèrent de l'adrénaline et du cortisol, deux hormones qui activent la réponse au stress. Le rythme cardiaque augmente, la tension artérielle s'élève, les pupilles se dilatent, le souffle est plus court et la peau moite. En parallèle, le cortisol met en sommeil les fonctions que le cerveau ne juge pas essentielles à la survie. Il module les réponses du système immunitaire et inhibe les mécanismes physiologiques de la digestion, de la reproduction et de la croissance afin de conserver toute son énergie pour faire face aux risques. Tout cela était utile à nos ancêtres qui devaient échapper aux prédateurs, mais beaucoup moins quand votre angoisse est due à la crainte d'être contaminé par le client qui tousse derrière vous au supermarché. Dans ces crises, l'anticipation du risque joue un rôle majeur, ajoute le docteur Dubois. une situation vous paraîtra menaçante, même si elle ne l'est pas, et vous déploierez des trésors d'imagination pour y échapper. Vous serez obsédé par des stratégies d'évitement ou par des plans de fuite. Vous serez indécis par crainte de prendre la mauvaise décision, ou au contraire agité, remonté, incapable de vous détendre. Normalement, ces symptômes s'apaisent dès que la situation qui vous met en émoi s'éloigne. Ainsi, si l'idée de prendre l'avion vous rend nerveux, ce sentiment se dissipe aussitôt que les roues se posent sur la piste. L'anxiété peut néanmoins devenir chronique et se transformer en trouble anxieux généralisé, TAG, trouble panique, trouble obsessionnel compulsif, TOC, syndrome de stress post-traumatique ou phobie. La différence entre l'anxiété circonstancielle déclenchée par un facteur de stress transitoire et l'anxiété relevant du trouble anxieux n'est pas toujours évidente. Il est normal de se sentir anxieux, mais quand l'anxiété envahit au quotidien et vous empêche de profiter de la vie, il est important de demander de l'aide. Si, par exemple, vous avez tellement peur de l'avion que vous ne partez plus en vacances, il est temps de consulter. Il en va de même si vous constatez que l'anxiété dure au-delà de la résolution du problème et qu'elle semble même augmenter d'une fois à l'autre. Traiter l'anxiété quand elle persiste. Il existe des traitements efficaces de l'anxiété, qu'ils soient médicamenteux ou psychothérapiques. Plutôt que de se soigner, de nombreux patients vont tenter soit de dominer leur anxiété, soit de la fuir, indique le docteur Dubois. Mais en essayant de neutraliser l'anxiété, vous risquez plutôt de lui faire toute la place dans vos pensées, et en la fuyant, vous ne réglez rien. Voici quelques conseils pour réduire les effets négatifs de l'anxiété. L'accepter. Admettre que l'anxiété fait partie de la vie de chacun permet de l'accueillir avec une certaine bienveillance, voire avec humour. C'est la pierre angulaire de la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT. Cette forme de TCC repose sur deux concepts clés. Accepter ce qu'on ne peut pas contrôler et s'engager dans une action qui enrichit notre vie. Les praticiens encouragent ainsi les patients à entreprendre un dialogue avec leurs pensées anxieuses, à se pencher sur leurs causes et à ne pas perdre de vue leurs objectifs de vie et leurs valeurs personnelles. Le patient prisonnier de ses angoisses apprend peu à peu à redevenir maître de son existence et de ses actions. Poursuivons la lecture du texte « Comment apaiser l'anxiété ». Un texte de Rebecca Phelps avec la collaboration de Lucy O'Pritchard et de Jeanne Moncada, paru le 25 août 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest. Se montrer curieux. Parallèlement à l'acceptation, il est bon de prendre pleine conscience de son anxiété, surtout si les idées envahissantes empêchent de penser rationnellement. Un moyen efficace consiste à porter son attention sur les sensations corporelles, les pensées et les émotions consécutives à notre anxiété. Observer et nommer les sensations physiques. Je rougis, j'ai la respiration courte, mon cœur bat plus vite, est alors déjà une première étape dans l'affranchissement des réactions anxieuses. Il existe de nombreuses applications numériques pour s'entraîner à la pleine conscience. Elles aident à mieux vivre les manifestations de l'anxiété. Pratiquez-la quotidiennement et ainsi vous serez mieux préparé à affronter les crises. C'est en étant plus consciente des effets de l'anxiété dans sa vie que Sue Thomas a pu reconnaître le mouvement envahissant des inquiétudes et des pensées obsédantes. Quand cela se produit, plutôt que d'être pétrifié par le stress ou de surcharger son esprit de pensées au point de ne plus pouvoir se concentrer, elle prend du recul et se recentre sur le moment présent. Adapter son mode de vie. La fatigue et l'augmentation du stress nous rendent plus vulnérables à l'anxiété. Un régime équilibré, un sommeil réparateur et, par-dessus tout, la pratique sportive aident à y faire face. Une étude a montré qu'un entraînement régulier et vigoureux réduisait de 25 % le risque de troubles anxieux au cours des 5 années suivantes. La marche nordique est une technique efficace pour redonner du dynamisme, ajoute le docteur Dubois. Elle stimule la fabrication d'endorphines par le cerveau et contribue à un sentiment de bien-être. Privilégier un entourage bienveillant. L'affection protège des effets du stress, écrit le docteur Philippe Rodet, médecin urgentiste français et auteur de nombreux ouvrages sur la bienveillance. L'explication est simple. Il existe une relation inverse entre le taux d'ocytocine dans le sang, hormone du bonheur, et le cortisol, hormone du stress. Une étude menée en Suisse par l'équipe du professeur Beat Ditson de l'Université de Zurich conclut que plus le taux d'ocytocine est élevé, plus celui de cortisol est bas, dit le médecin. L'équipe suisse a également montré que chez les sujets qui reçoivent beaucoup d'affection, le taux de cortisol diminue. Tenter une cure thermale. Plusieurs centres thermaux ont mis au point des cures pour les patients souffrant d'un trouble anxieux généralisé, TAG. Ces cures reposent à la fois sur la présence de certains oligo-éléments comme le magnésium ou le lithium dans l'eau thermale, mais aussi et surtout sur la prise en charge et l'accompagnement pendant la cure, sport, alimentation, repos, atelier. La cure en elle-même est bénéfique pour le sommeil, explique le docteur Dubois. Cela aide à rompre le cercle vicieux insomnie, fatigue, anxiété. Les curistes apprennent également de nombreuses techniques pour se réapproprier leur corps et leurs sensations, relaxation, méditation. Pendant 3 semaines, le patient va lâcher prise, souligne le psychiatre. Son processus d'auto-alimentation du stress chronique se bloque suffisamment longtemps pour que les crises ne redémarrent pas quand il rentre chez lui. Sue Thomas prend un traitement pharmacologique pour mieux maîtriser son anxiété et ses douleurs chroniques. En plus de pratiquer la pleine conscience et la méditation, elle suit des cours de peinture et de dessin. Elle administre par ailleurs une plateforme où les membres partagent leurs expériences et se soutiennent en période de stress. Cet esprit de solidarité couplé aux techniques d'ACT mentionnées plus haut ont contribué à sa guérison. L'anxiété a cessé de prendre le dessus, se félicite-t-elle. Il m'arrive encore d'en éprouver, mais ça va, ça fait partie de moi. La médication peut aider. En raison de la stigmatisation des psychotropes, beaucoup écartent l'idée de prendre un médicament contre l'anxiété. Ceux qui en souffrent craignent parfois l'accoutumance ou d'être jugés faibles ou handicapés. En réalité, les traitements pharmacologiques des troubles de l'anxiété proposés aujourd'hui sont plus sûrs et ont moins d'effets secondaires qu'il y a 30 ans. L'attitude face à la maladie mentale a également évolué. Une étude publiée en 2013 dans The British Journal of Psychiatry a révélé que près de 80 % des adultes jugeaient la maladie mentale comme un problème de santé comme les autres, et 85 % considéraient important de lutter contre sa stigmatisation. Si vous envisagez la médication, votre médecin pourra vous prescrire celle qui est le mieux adaptée à votre situation. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, sont de bons médicaments pour démarrer un traitement contre de nombreuses formes d'anxiété. La sérotonine est un neurotransmetteur qui intervient dans le sentiment de bien-être et de bonheur, en plus d'agir sur la pensée, la mémoire, le sommeil, la digestion et la circulation. Les ISRS élèvent le niveau de sérotonine dans le cerveau et, en plus d'être sûrs, leur usage à long terme n'entraîne pas de dépendance. À plus court terme, on envisagera les benzodiazépines comme le Xanax, qui potentialise l'effet du GABA, un neurotransmetteur inhibiteur, autrement dit qui freine la transmission des signaux nerveux. Les benzodiazépines agissent rapidement et ne restent pas longtemps dans l'organisme. Ils peuvent cependant créer une dépendance et sont considérés comme dangereux dans un usage continu. Pour Jean Lally, psychothérapeute à Édimbourg, en Écosse, les médicaments associés à une thérapie sont une bonne approche de soins, surtout chez les personnes qui souffrent d'une forme d'anxiété plus grave. Pour entreprendre une thérapie, il faut une bonne santé cognitive et la médication aide à l'entretenir, explique-t-elle. Elle soulage des symptômes et accroît la concentration. Les deux fonctionnent très bien ensemble. C'était « Comment apaiser l'anxiété », un texte de Rebecca Phillips avec la collaboration de Lucy Oprichard et de Jeanne Moncada, paru le 25 août 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest.
Six façons de se préparer à la prochaine récession. Un texte de Walid Ejazi et Georges Georgopoulos, paru le 19 août 2022 dans le magazine La Conversation. Malgré les apparences, et c'est ce que de nombreuses personnes croient, nous ne sommes pas encore en récession. Une récession est définie comme deux trimestres successifs de croissance négative du PIB, mais il s'agit essentiellement d'une période où la croissance économique chute de manière considérable avec une augmentation du taux de chômage. En raison de l'absence d'une définition précise, on ne s'accorde pas toujours à dire qu'une économie est en récession. Au Canada, le gouvernement n'a pas fait de déclaration récente, mais le TD Howe Institute, un organisme canadien de recherche politique à but non lucratif, suit les récessions de façon indépendante. Selon l'Institut, la dernière récession a commencé en mars 2020, au plus fort de la première vague de COVID-19. L'Institut a déclaré la fin de la récession en août 2021. La crise actuelle liée au coût de la vie pousse de nombreux Canadiens à se demander quand aura lieu la prochaine. Une inflation galopante. Les économistes sont unanimes à penser qu'une récession se produira probablement en 2023. Cette prévision s'explique en grande partie par la hausse vigoureuse des taux d'intérêt par les banques centrales du monde entier pour lutter contre l'inflation. Les taux d'inflation, le taux d'augmentation des prix que nous payons pour les biens et services, ont atteint des niveaux jamais vus depuis quatre décennies. Les taux d'inflation élevés affectent le pouvoir d'achat et les gens ont de plus en plus de mal à se procurer les produits de première nécessité, comme les denrées alimentaires. L'inflation a également des répercussions négatives sur l'efficacité économique, entraînant une diminution globale de la croissance. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, il devient plus difficile de financer l'achat de biens plus importants comme les voitures, les maisons et les vacances. La hausse des taux d'intérêt rend plus coûteux tout achat nécessitant un financement. Les dettes existantes assorties de taux d'intérêt variables entraînent également une majoration du coût de portage de ces dettes. Par conséquent, la demande de nombreux biens et services diminue, tout comme l'inflation. Que se passe-t-il lors d'une récession? Pendant une récession, les entreprises sont obligées de réduire l'embauche, de licencier des travailleurs et de diminuer les heures de travail. Si une récession survient, des dizaines de milliers de Canadiens se retrouveront au chômage ou verront leurs heures de travail réduites. Un grand nombre de ces pertes d'emplois seront concentrées dans le secteur des services, en particulier dans l'économie de petits boulots, où les revenus ont tendance à être plus faibles et l'emploi est précaire. Une perte de revenus signifie que les gens doivent puiser dans leurs économies, en supposant qu'ils en aient, pour payer les articles essentiels comme la nourriture, le logement et le transport. Les pertes d'emplois potentielles ou la réduction des heures de travail constituent donc la plus grande conséquence d'une récession. La plupart des gens doivent s'y préparer. Comment se préparer? Avec une récession qui semble imminente, de nombreux Canadiens s'inquiètent, à juste titre, de l'état de leurs finances. Voici 6 conseils à suivre pour y faire face. 1. Réduisez immédiatement vos dépenses, en particulier celles consacrées aux articles non essentiels. Profitez de l'occasion pour revoir votre budget et reconsidérer les habitudes d'achat quotidiens qui se multiplient. Plutôt que de dîner au restaurant chaque jour, pensez à préparer un repas. Réexaminez ces abonnements qui sont prélevés automatiquement de votre compte chaque mois. C'est le moment idéal pour analyser et justifier vos habitudes d'achat et pour remanier votre budget. 2. Remboursez votre dette de carte de crédit maintenant. Il est important de rembourser les dettes à intérêt élevé autant que possible, le plus tôt possible. Au cours des prochains mois, les taux d'intérêt continueront à augmenter, ce qui rendra la gestion des dettes plus ardue. Des soldes moins élevés contribuent à réduire le montant des versements d'intérêt pendant toute période de perte de revenus ou d'emploi, ce qui permet de traverser plus facilement les moments difficiles pour le portefeuille. 3. Prêtez une attention particulière au paiement des factures et évitez les frais de retard. Ces frais s'accumulent également avec le temps. Établissez un plan pour vous assurer que les paiements de factures sont effectués à la date d'échéance ou avant. Payer ces factures en retard entraîne des sanctions pécuniaires, ce que vous voulez toujours éviter, mais surtout en période de récession. 4. Soyez prêt à perdre votre emploi. Assurez-vous que vos CV et lettres de présentation sont à jour et que vous êtes prêt à chercher un emploi. En cas de licenciement, soyez préparé à trouver un autre poste rapidement. 5. Devenez plus facilement embauchable. Comme les récessions frappent généralement plus durement les personnes ayant moins d'expérience et moins de qualifications, vous devriez mettre à jour vos compétences professionnelles. Explorez les options virtuelles qui offrent d'excellentes possibilités de perfectionnement ou les formations en présentiel dans les collèges et universités du pays pour parfaire votre éducation et accroître vos compétences. 6. Si possible, essayez d'obtenir un emploi à l'abri de la récession. Les emplois les mieux adaptés à un ralentissement économique dépendent du niveau de compétences, mais on les trouve généralement dans le secteur public, les soins de santé et l'éducation. Bien entendu, ces emplois ne conviennent pas à tout le monde. Chacun doit envisager les options qui correspondent à ses habiletés et à ses préférences. Cette stratégie est beaucoup plus efficace lorsque vos compétences et votre CV sont mises à jour et que vous êtes bien préparé. Prévoir le pire, espérer le meilleur. Certaines de ces stratégies sont plus faciles à mettre en œuvre que d'autres, mais la plus grande leçon de toutes est peut-être de toujours se préparer au pire. Les récessions ou ralentissements économiques font partie de ce que l'on appelle le cycle économique, qui décrit les hauts et les bas de l'économie. Elles se produisent généralement une fois par décennie, et parfois plus souvent. Les gens devraient toujours être bien préparés à de tels ralentissements. Il est beaucoup plus facile d'appliquer les stratégies ci-dessus bien avant une récession, au lieu d'attendre le dernier moment. Plus on s'approche d'une récession, et plus il est difficile de bien se préparer en appliquant ces stratégies. Même en prévoyant le coup, les récessions peuvent être très pénibles à vivre. Mais la bonne nouvelle est qu'elles ne durent pas éternellement. La seule chose que nous pouvons faire est de prévoir le pire et d'espérer le meilleur. C'était « 6 façons de se préparer à la prochaine récession », un texte de Walid Ejazi et Georges Georgopoulos, paru le 19 août 2022 dans le magazine « La Conversation ».
6 bonnes raisons de pratiquer la méditation. Un texte d'Élise T. Turcotte, paru le 20 mars 2019 dans le magazine Sélection du Reader Digest. La méditation n'est désormais plus réservée aux moines et aux yogis. Il ne suffit que de quelques minutes et d'un peu de calme. Vous pouvez pratiquer la méditation en faisant votre jogging, en écoutant de la musique ou même en préparant du souper. Libre à vous de trouver ce qui vous convient. Voici 6 bonnes raisons de pratiquer la méditation. Première raison. Diminuer le stress. La méditation est un excellent remède contre le stress. Non seulement la méditation vous permet de vous reposer la tête et le corps de vos obligations quotidiennes, Elle réduit aussi la production de cortisol et augmente plutôt la production de sérotonine, ce qui a un effet direct sur tout votre système nerveux. Deuxième raison, améliorer la qualité du sommeil. Aussi peu que 30 minutes de méditation par jour peuvent grandement améliorer la qualité de votre sommeil. Préférablement pratiquée de soir, la méditation repose votre esprit et prépare votre corps pour le sommeil. Des études ont montré que la méditation peut aussi aider les personnes qui souffrent du syndrome de la fatigue chronique en faisant augmenter le niveau d'activité des ondes θ et delta dans le cerveau, ce qui aide à compenser pour le manque d'heures de sommeil. Troisième raison, améliorer la santé. La méditation renforcit le système immunitaire en abaissant la pression sanguine et en réduisant le cholestérol. Des études ont montré que la méditation aidait aussi à réduire les douleurs chez les patients atteints de maladies chroniques. Quatrième raison, augmenter la concentration. Il a été maintes fois prouvé, par des chercheurs de l'Université Harvard, notamment, que la pratique de la méditation augmente la concentration, élève la conscience et l'éveille et améliore notre capacité à garder notre attention plus longtemps. Cinquième raison, améliorer la stabilité émotionnelle. La méditation peut être d'un grand secours pour les personnes qui souffrent d'anxiété ou de dépression. Elle peut aussi aider à gérer les émotions négatives et à contrôler la colère. La méditation aide à maintenir un esprit calme et les idées claires. Sixième raison, être plus heureux. Pour toutes ces raisons, vous serez beaucoup mieux dans votre peau, avec moins de stress, du meilleur sommeil, une meilleure santé et plus de stabilité, vous serez plus positif et plus heureux. C'était 6 bonnes raisons de pratiquer la méditation. Un texte d'Élise T. Turcotte paru le 20 mars 2019 dans le magazine Sélection du Reader Digest.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Luc Mercure à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartman à la présentation et au montage.